France Inter, le 18-20.
À chaque fois que se déroule ce forum de la cybercriminalité de Lille, c'est-à-dire une fois par an, on a envie de jeter son ordinateur par la fenêtre, de troquer son smartphone contre un Nokia 3310, d'arrêter Facebook et tout le reste, de se mettre en position de sécurité même, parce que ce qui va nous tomber dessus, ce qu'on nous promet en tout cas chaque année, c'est terrible. On parle cette fois d'un cyber Pearl Harbor fait de charges numériques qui peuvent exploser à tout moment. Et le fait est que tout récemment en Allemagne, un type en colère tout seul dans sa chambre a réussi à pirater les parlementaires à grande échelle, les emails, les numéros de téléphone, les photos, y compris d'ailleurs les données de la chancelière. Alors à l'échelle d'un pays qui entre en guerre numérique, vous imaginez ce que ça peut vouloir dire. Aujourd'hui, il faut se méfier de son compte en banque, de ce qu'on achète. Ne laissez pas votre numéro de carte bancaire malheureux sur Internet. On peut se faire arnaquer à l'amour, paraît-il, même sur un site de rencontre. Preuve que les pirates ne respectent décidément plus rien. Les pirates font du phishing, du vishing, du skimming. Il y a des cyberlockers qui se répandent sur Internet. Là, j'ai perdu ma mère qui ne comprend pas les mots que je prononce, celle de Pierre, notre ami stagiaire, non plus d'ailleurs. Et pourtant, ma mère a un smartphone, comme tout le monde, un ordinateur, des emails, un compte en banque qu'elle consulte aussi. Alors, faut-il nous demander de tout lâcher ? Plus de Facebook, plus de Twitter, on n'achète plus rien, on ne consulte plus rien, on ne partage plus rien. Où peut-on se prémunir ? Comment on fait, nous, pour les éloigner ? Les pirates, peut-on réellement le faire ? Qu'est-ce qui les intéresse chez nous, les sans-grades ? Qu'est-ce qu'ils font avec nos données ? Est-ce qu'il suffit de changer son mot de passe tous les 8 jours pour que ça marche ? Faut-il vider les spams ? Racontez-nous, il y a sûrement des moyens d'éviter les pirates. Voyons ça ensemble.
Fabienne Synthèse. Le téléphone sonne.
Joël, vous êtes dans le Limousin et soyez le bienvenu au téléphone sonne.
Merci Fabienne. Merci Fabienne et merci à France Inter pour la qualité de cette émission. Bonjour à tous les invités. Voilà. Bon, moi, c'est justement, votre introduction était très bien faite. Je me suis déconnecté pour des raisons de sécurité, parce que j'ai été malmené sur Facebook, sur Internet, etc., etc. J'ai dit stop, on arrête. Donc, plus d'Internet, plus de portable. Et, si vous voulez, je me suis rendu compte qu'en fait, Internet est absolument pas sécurisé. Absolument pas. On y fait ce qu'on veut, surtout pour les attaquants, donc ce que vous appelez la cybercriminalité. Et souvent venant de l'étranger, bien sûr. Et maintenant, le problème qui se pose, c'est qu'ayant quitté tout ce système informatique moderne, je suis...
Vous vous ennuyez sévèrement ?
Non, pas du tout. Non, j'ai autre chose à faire. Non, je m'ennuie pas. Non, parce que moi, je suis pas télé, je suis pas Internet, tout ça. Non, c'était juste si vous voulez, Internet, pour moi, c'était une facilité de faire un certain nombre de choses, comme tout le monde.
Mais du coup, ça veut dire, Joël, c'était une facilité, mais ça veut dire que vous pouvez vous en passer. Est-ce que vous travaillez toujours ou vous êtes à la retraite ?
Non, je suis à la retraite. Ouais. Je suis à la retraite. Oui, mais le problème maintenant qui se pose, vous voyez, comme quoi il y a quelque chose de l'autre côté qui vient vous percuter, c'est que toutes les administrations françaises, maintenant, sont sur Internet, et toutes les démarches que vous devez faire, vous devez les faire sur Internet. Et le problème, c'est que moi, je me suis déconnecté, par rapport à ces aléas, mais aussi par rapport à un data center. C'est une source de pollution incroyable, parce que ça a besoin de... Ça travaille ni dans le froid, ni dans le chaud, donc de la climatisation, des choses et tout ça. Donc c'est très polluant. Mais par contre, en contrepartie, vous avez toutes les administrations maintenant qui sont passées sur Internet. Donc, vous ne pouvez plus faire de démarches. Parce que par téléphone, vous n'avez jamais personne. Quand vous vous déplacez, il n'y a personne pour vous recevoir. Quand vous envoyez un courrier, on vous dit « connectez-vous à Internet ». Donc, vous voyez, que ce soit pour la sécurité sociale, pour la retraite, pour les impôts, vous n'avez plus d'accès. Et moi, je me dis quand même, le papier, ça coûte moins cher à produire avec la poste et les timbres, ça coûte moins cher que des data centers qui valent une fortune, quoi.
Mais, merci Joël, merci, pardon de vous interrompre, mais pour qu'on ait le temps de répondre quand même autour de cette table, parce que vous avez bien mis les choses en place et sur la table, on a bien compris que vous aviez décidé, vous, de vous déconnecter pour discuter ensemble. Et jusqu'à 20h, Sébastien Dupont est là, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes expert en cybersécurité, vous avez travaillé pour le ministère de la Défense, vous avez écrit « Vous êtes fou d'aller sur Internet », ce qui annonce la couleur, c'est publié chez Flammarion, ça paraîtra le 6 février prochain. Bonjour à Nicolas Arpagian.
Bonsoir.
Bonsoir, vous êtes expert en cyberdéfense, c'est vrai qu'on est le soir. Vous avez écrit « La cybersécurité, c'est un que sais-je » et c'est chez PUF. Et bonsoir à vous, Julien Baldacchino, vous êtes journaliste au service web ici à la maison. Alors c'est vrai que c'est un peu radical de se déconnecter complètement, mais Joël est probablement pas le seul. Ce que j'avais envie de vous demander, Sébastien Dupont, c'est il a de la chance d'être à la retraite au fond, Joël. Est-ce que, objectivement, est-ce qu'on peut aujourd'hui se déconnecter intégralement ?
C'est une vraie question et c'est vrai qu'il y a des inquiétudes aujourd'hui. Quand on fait la liste, il y a très peu de grands cas de drames sur Internet, mais il y a quand même des drames qui existent. Mais il y a beaucoup de petites choses, de petits cailloux dans la chaussure et au bout d'un moment, on en a marre. Quand on veut faire de l'administration en ligne et que ça fonctionne pas, on a l'impression des fois d'être dans des boucles. Mm-hmm. C'est un peu comme ce taureau qui est dans ce labyrinthe et c'est vrai qu'on a envie de tout envoyer valdinguer. Alors, moi, je comprends que Joël se pose cette question. La question que j'amène juste après, c'est quelle aventure de la sociabilisation on a envie de vivre. Si il est très bien dans sa vie sans Internet, je pense qu'il a le droit d'assumer ça. Après, moi je trouve qu'Internet c'est formidable. On nous a fait des promesses qui sont incroyables. Maintenant, il y a des risques. Il y a une hygiène de l'Internet à avoir et ça on ne nous l'apprend pas.
Et alors donc c'est ce qu'on va essayer de faire d'ailleurs jusqu'à 20h. Nicolas Arpagian, on peut pas, enfin c'est compliqué de se déconnecter intégralement aujourd'hui, mais est-ce que ça veut dire au fond que c'est comme ça. Il faut faire avec, il y a un risque, donc protégeons-nous, mais on n'y peut rien au fond.
Alors, il y a effectivement un contexte de numérisation. Pourquoi ? Parce que c'est un élément de facilité, c'est un élément d'économie. Quand les administrations basculent, effectivement, transfèrent en quelque sorte à l'administré le fait d'effectuer les tâches, de remplir des documents administratifs et accessoirement peut-être d'ailleurs d'assumer la responsabilité si ce document n'était pas parfaitement rempli.
C'est ça, parce que c'est lui qui met son nom, c'est lui qui met son adresse,
exactement.
C'est lui qui donne toutes les infos.
On voit bien que c'est une problématique de gouvernance qui va au-delà d'une technologie. Par contre, ce qui est certain, c'est que le numérique a des vertus et des éléments bénéfiques. Mise à disposition de l'information, capacité d'échanger, capacité de produire de nouvelles formes de contenu qui peuvent être des photos, des images, des vidéos, d'avoir cette capacité créatrice qu'il ne faut pas sous-estimer. Cette contribution numérique, elle est forte d'un potentiel. Par contre, effectivement, il n'y a pas eu l'explication, le permis de conduire de la voiture, c'est-à-dire le fait de, avant de mettre un grand nombre de voitures en circulation, on a écrit un code de la route, on a écrit des règles de bon usage sur la priorité à droite et sur le port de la ceinture. Donc la question, c'est que on a mis à disposition des gens, des internautes et des utilisateurs, un outil qui est très performant, c'est-à-dire un smartphone, éventuellement une connexion Internet à haut débit, et sans avoir cette explication. Alors maintenant...
Mais c'est parce qu'on ne savait pas que ça existait, en fait. On ne savait pas qu'on allait se retrouver avec un type qui pouvait aller chercher nos mots de passe
alors,
et nos codes.
Vous avez raison, en fait, l'industrie du numérique est une industrie un peu particulière. C'est une industrie, par exemple, prenez une très belle et très grande entreprise comme Microsoft, mais Microsoft, depuis 40 ans, date de sa création, publie chaque mois ce qu'on appelle un Patch Tuesday, le pansement du mardi. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des corrections aux défaillances, aux failles de ses équipements. Imaginez un constructeur d'avions qui dirait, écoutez, j'ai mis mes avions en vente, ils sont commercialisés par des compagnies aériennes, mais bon, évidemment, vous comprenez, il faut que je les corrige tous les mois parce que ils sont pleins de... Non. L'industrie informatique s'est construite sur la faille, elle a appris en marchant et évidemment sur ce, des gens ont profité de ces failles qu'ils ont documentées et c'est vrai qu'il y a cette course à des failles existent, je dois les corriger, c'est pour ça qu'on va vous demander
mais
dans les conseils...
Mais qui est en tête, pardon de vous interrompre Nicolas Arpagian, on a l'impression que ce sont les pirates qui sont toujours en tête,
toujours,
en fait on leur court derrière.
Ils ont l'initiative, ils ont l'initiative de l'attaque, du mode opératoire, l'initiative de la cible et l'initiative de l'agenda, du tempo. Donc évidemment, l'attaquant a de l'avance, c'est pour ça que la moindre des choses pour les utilisateurs que nous sommes, lorsque on vous propose de mettre à jour votre navigateur, faites-le. Lorsque l'on vous propose de mettre à jour votre antivirus, faites-le. Pourquoi ? Parce que
alors,
vous allez bénéficier de la connaissance.
Alors, mise à jour, ça sert à quoi ? Alors, je vois bien qu'on me demande de faire des mises à jour tout le temps sur mon ordi. Ça sert à quoi ? Pourquoi je suis mieux protégé quand je fais une mise à jour ? Qui veut, en fait, Sébastien Dupont ?
Les mises à jour, il y a, en 2018, c'est 18 000 failles de sécurité qui ont été détectées sur toutes les technologies, que ce soit sur votre navigateur Internet ou sur les sites e-commerce ou bancaires. Et ces 18 000 failles de sécurité, il faut les imaginer comme des portes ou des fenêtres dans votre maison. Mmh. Et donc, l'objectif, ça serait que chacun fasse un effort pour aller fermer ses portes et ses fenêtres. Et ça, c'est vraiment, c'est une chose qui est très difficile à faire. On a une culture ou un geste que l'on ne fait pas. Mais que ce soit l'individu, l'utilisateur, avec son smartphone, ou que ce soit le site e-commerce, nous avons tous cette responsabilité de fermer les portes et les fenêtres.
Julien, vous vouliez rajouter quelque chose?
Oui, la communauté alimente aussi beaucoup ça, c'est-à-dire que les hackers, qui sont pas tous des pirates...
Il y a aussi des hackers éthiques.
Voilà, il y a aussi des hackers éthiques qui vont aller chercher à la sortie d'une mise à jour les failles pour les signaler. C'est-à-dire qu'on a aussi quelque chose de vertueux dans ce cercle-là des failles et des mises à jour qui va être permis par les utilisateurs eux-mêmes.
Alors allons-y franchement, parce qu'il va y avoir plein de questions là-dessus, comme ça on peut les écluser, et c'est vrai que ça revient tout le temps. Qu'est-ce que je fais avec mon mot de passe? Alors, on a bien compris désormais qu'il fallait pas que ce soit 1, 2, 3, 4, 5.
Il faut que ce soit c'est plus des phrases de passe, c'est-à-dire plus alors,
il paraît que maintenant il faut faire ça. Les sangles longs des violons blessent mon cœur ou bercent mon cœur.
D'une longueur monotone, éventuellement. La question est surtout que plus il sera long, plus il sera complexe à casser. En fait, on va mettre machine contre machine. Votre machine est protégée. Le pirate va entreprendre d'utiliser une puissance de calcul pour essayer de casser ce mot de passe. Donc, s'il est court, simple, en fait, il va repérer par exemple des bases de données identifiant qui rassemblent des identifiants, adresse email, un mot de passe. Et il va automatiser le fait de les tester. Un peu comme si vous trouviez un trousseau de clés et vous allez automatiser le fait d'essayer chacune des clés sur les serrures des appartements
que
vous souhaitez visiter.
Mais du coup, est-ce qu'on finit toujours par l'avoir, même si on choisit du Verlaine? Donc ça veut dire qu'il faut changer toutes les semaines son mot de passe?
Il ne faut pas qu'une règle soit trop grave ou trop forte pour que vous ne l'appliquiez pas. Donc il vaut mieux le faire régulièrement, mais chaque semaine deviendrait quelque chose à la fin de tétanisant et de paralysant.
Sébastien Pupon, vous qui levez le doigt, j'adore quand vous levez le doigt.
Moi, j'invite les auditeurs à faire un petit test. Vous imaginez votre mot de passe, celui que vous utilisez le plus souvent, qui est le mot de passe le plus sensible.
Ouais.
Vous l'avez en tête, vous avez peut-être un ou deux, même si c'est flou. Et je vais vous poser trois questions. Ces trois conditions qui permettent d'avoir la qualité d'un bon mot de passe. Le premier, c'est qu'il ne doit pas y avoir à l'intérieur, ce qui vient d'être dit par Nicolas, ni un mot du dictionnaire, ni un mot...
Ça va devenir hyper compliqué de se trouver un mot de passe. Hein.
Voilà.
Un mot du dictionnaire.
Aucun mot du dictionnaire. Donc déjà
Strutz, par exemple.
Bouton rouge.
Ok.
Strutz.
Ok.
Deuxièmement, il ne faut pas qu'il y ait une information que vous avez déjà rendue publique. Le nom de votre animal de compagnie, des choses de ce type.
Okay. Date de naissance.
Ouais.
Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut qu'il soit varié, c'est ce qui a été dit, et il faut que vous fassiez un mélange. Alors ça, c'est la règle très importante entre les minuscules, les majuscules, les chiffres et les symboles. Ça paraît un peu comme ça, peut-être désuet, mais c'est vraiment la règle qui est essentielle. Et enfin, vous allez sur un site pour vérifier si votre mot de passe n'a pas déjà été volé. Il faut savoir que...
Et sur quoi, sur site?
Ah, je vais vous le donner.
Bah oui.
Il faut imaginer qu'il y a de nombreux sites qui se font pirater. Je vais pas citer là, mais surtout c'est les sites américains qui sont connus parce qu'ils jouent le jeu grâce à leur réglementation de dire quand il y a quelque chose qui s'est pas bien fait, alors qu'en France c'est tout nouveau avec une nouvelle réglementation qui s'appelle le RGPD. Et donc il suffit d'aller sur le site qui s'appelle Have I Been Pwned. Pwned s'écrit, je suis désolé,
ça n'existe
pas en français. PWND.
Ok.
Et vous tapez votre email. Et là, il vous dit si votre mot de passe a déjà fait l'objet d'un vol.
Mais du coup, ça veut dire que vous êtes en train de me dire que pour vérifier que mon mot de passe est fiable, il faut que je le mette déjà dans un truc.
En fait,
résultat, bing.
Il ne faut pas mettre le mot de passe, il faut mettre votre adresse email.
C'est pire.
Non, vous mettez que l'adresse email. Et l'adresse email, on va vous dire si votre compte, vous ne mettez jamais votre mot de passe quand il ne faut pas le mettre.
Okay. Pourquoi ? Parce que l'adresse email est utilisée comme identifiant. Donc, dans les composants d'identification, vous avez toujours un mot de passe qui vient compléter une adresse email.
Alors, le risque, parce que moi, je me connais, une fois que j'aurai trouvé sprunch, j'aurai tendance à utiliser le même dans plein de trucs pour ouvrir plein de choses diverses qui ont besoin d'un mot de passe, parce que du coup, c'est plus simple. est-ce que je tombe dans le piège qui m'a été tendu si je fais ça?
Oui, parce qu'une fois qu'il aura été testé, en fait, il faut garder à l'esprit que ce ne sont pas là au moment où il va être exploité, cette information, ce mot de passe. Ce n'est pas un humain qui va le rentrer avec ses doigts sur un clavier. On va être sur des bases de données où, en fait, la personne qui aura piraté un site internet, récupérant des identifiants et des mots de passe, va faire en sorte de la rendre disponible. Soit il va l'offrir, soit il va le mettre en vente. Et à ce moment-là, effectivement, on va automatiser. Je reviens sur l'image de « je vais tester à grande échelle beaucoup de clés, beaucoup de combinaisons sur un digicode ». Et donc, effectivement, il va essayer sur les grandes plateformes, réseaux sociaux, sites de rencontres, tout ce qui est CV en ligne, et donc de manière à essayer de voir si vous l'avez par hasard utilisé pour d'autres fonctions.
Donc, je vous entends, j'ai l'impression, et après on va retourner au standard, que ça fonctionne finalement comme un antivol de moto, en fait. Le problème, c'est pas tellement la grosse qualité de l'alliage, mais c'est le temps qu'on peut mettre en fait pour y aller.
Exactement.
Donc en gros, si mon mot de passe c'est Figolu1984, il y en a pour 2 minutes. Si c'est Sprunz@1984, il y en a pour.
Bah en tout cas, alors
parce
après,
que
ça
tout
dépend,
le monde est inviolable visiblement.
En tout cas, ça dépendra de la puissance de calcul que le pirate va mettre. Mais par contre, c'est pour ça que s'il n'a rien contre vous, Fabienne Synthèse, il ira attaquer un peu comme une porte blindée. Si vous avez dans un immeuble un appartement qui est avec une porte blindée, si la personne est juste là pour faire un cambriolage, eh ben elle ira sur la porte qui est moins protégée. Donc effectivement, cette robustesse vous met à l'abri déjà des pirates qui ne sont ni des très grands professionnels ou en tout cas des gens qui veulent plutôt la rapidité pour faire la rentabilité.
Bonsoir Pascal.
Oui, bonsoir.
Allez-y Pascal, on vous écoute.
Écoutez, moi voilà, je vous appelle parce que je suis directrice artistique et graphiste depuis des années. Je travaille beaucoup chez moi et je travaille sur Macintosh. Et j'ai jamais eu de problème, à part peut-être une fois un piratage de mon adresse mail. Mais je voulais savoir si le fait de travailler sur Macintosh, et je fais pas de la pub pour Apple, par rapport au PC, est-ce qu'on n'est pas un peu plus protégé parce qu'on est moins nombreux? Voilà, c'est la question que je voulais poser. Parce que moi, j'ai jamais de soucis et j'ai plein d'amis qui n'en ont pas non plus.
Merci
voilà.
Pascal. Question concrète, réponse concrète. Et je comprends la question
légende.
De Pascal parce qu'on a moins de piratage quand on est sur Apple parce qu'il y a moins de monde. Donc est-ce que
non,
c'est
non,
pareil?
Alors ce qui est vrai, c'est qu'on
parle
de
virus,
marché.
Pardon,
on
parle
de marché. Pourquoi? Parce qu'un pirate est un entrepreneur comme les autres. C'est-à-dire qu'il cherche à adresser, à traiter la population dominante. Et donc effectivement, pendant longtemps, la population des clients d'Apple étaient moins exposés. Vous savez, ça me fait penser à cette blague de Coluche qui disait « Je comprends pas pourquoi est-ce qu'on construit pas les avions dans les matériaux des boîtes noires, parce que les boîtes noires, on les retrouve toujours intactes. » Je vous assure que si Apple avait trouvé la formule immanente de la cybersécurité, vous vous doutez bien que pour justifier notamment le surcoût de ces équipements, il en ferait un argument mais affiché et revendiqué. Non, bien sûr, les pirates au début ont moins visé la communauté Apple parce qu'elle était moins nombreuse et donc il était moins rentable. C'était une population moindre. Je vous rappelle qu'aujourd'hui elle est plutôt plus solvable que la moyenne puisque leurs équipements sont un peu plus chers. Donc évidemment, elle ne fait l'objet d'aucune protection ni théorique ni pratique.
Julien Baldacchino, pour ajouter quelque chose.
Oui, les plateformes Apple sont un peu plus résistantes au virus, mais une fois qu'on est sur Internet, qu'on va sur Google, sur Facebook, sur Amazon, qu'on soit sur Mac, sur PC, sur Android ou sur iOS, le problème est le même. Si on a un mot de passe qui est faible sur son compte Facebook, il sera faible quelle que soit la plateforme.
Sébastien Dupont, tiens, une question pour ajouter à ce qu'on vient de dire à l'instant. Mon ordinateur est sous Linux, nous dit ce monsieur ou cette dame, je ne sais pas, sur franceinter.fr. Je navigue avec le moteur de recherche Quant. Pour moi, pas de problème, pas d'antivirus, aucun spam. Il faut arrêter les systèmes qui nous espionnent. Est-ce que c'est le système qui espionne ou est-ce que c'est ce qu'on met à l'intérieur du système qui fait que, de toute façon, on sera espionné?
Alors, c'est vrai que aujourd'hui, on a un peu la parano d'être espionné, et c'est vrai qu'on peut trouver très facilement des produits espions qui vont espionner. Pour être dans la famille, aujourd'hui, les outils d'espionnage sont utilisés pour, et c'est dramatique, lors des cyberviolences. On s'est aperçu qu'il y avait une étude auprès des femmes victimes de violences conjugales qui montre que dans 85% de ces cas de violence, ça s'accompagne de cyberviolence, c'est-à-dire de cybercontrôle, de cyberharcèlement, de cyberviolence économique. Donc c'est vrai que ça rajoute parfois du malheur au malheur et ça c'est quand même un peu dommage.
Allez, bonsoir Robert.
Oui, bonsoir.
Bienvenue Robert.
Bien, merci de reprendre ma question. Bon, ma préambule est très rapidement, parce que je sais que vous avez beaucoup d'auditeurs. Je vais me présenter, j'ai 73 ans, donc je suis ce qu'on appelle un vieux. Je me considère qu'on n'y connaît rien.
Vous pouvez rester, Robert.
J'utilise Internet depuis 30 ans, et moi j'ai trouvé quelques parades que je vais vous expliquer rapidement. J'ai renoncé, et ça ne me pose pas de problème, aux achats sur Internet, premièrement. Deuxièmement, je refuse systématiquement la carte bancaire Contact, qui est très dangereuse et très signée par les hackers. Lorsque je voyage beaucoup depuis que je suis rentré dans le monde entier, je suis très old school. Je ne paye qu'en liquide, je n'ai pas envie d'être géopisté ou géotracé. J'ai supprimé tout ce qui était avant, consultation des comptes, etc., par Internet, et tant pis, je suis revenu un petit peu aux vieilles méthodes. Je devais faire mes consultations de comptes au distributeur de billets de ma banque, il y en a partout en France, etc., etc. Bien sûr, j'utilise uniquement le moteur de recherche Quant, et non plus Google, que j'ai abandonné définitivement. J'ai encore une page Facebook que j'utilise très peu. Je ne publie jamais mes coordonnées sur Internet, ni ma photo. Enfin bref, tout un tas de petites solutions comme ça qui font que je suis complètement serein et sans problème.
Mais alors Robert, attendez, du coup, Internet vous sert à quoi, au fond ?
Alors, il me sert surtout, je suis quelqu'un de très curieux, qui passe son temps à faire des recherches,
d'accord,
à consulter, à me renseigner, à me cultiver. Voilà. Donc, si vous préférez, j'ai complètement abandonné l'utilisation d'Internet pour tout ce qui est administration. Tant pis, on est revenu aux formules papier. Je m'en sers principalement comme outil de recherche parce que c'est un fantastique outil de recherche.
Ok, merci beaucoup Robert pour vos tuyaux et pour votre témoignage. Nicolas Arpagian, pardon, j'ai vu que vous avez levé la main, Sébastien Dupont, je vous promets, je vous donnerai la parole dans un instant. Tiens, il y a une chose, le refus du sans contact.
Alors ça c'est encore, en fait ouais. il va falloir serrer les propositions.
On déborde
de Robert.
Un peu, mais juste puisque Robert en a parlé, j'en profite, je vous pose la question.
Voilà, alors le sans-contact c'est pas tellement, il craint pas dans sa connexion internet, c'est plus éventuellement des gens qui ont des systèmes qui vont capter le sans-contact et à proximité de vous, mais alors là dans la vie très physique, hein, c'est dans une boutique, c'est au cinéma, etc., vont dans un aéroport essayer de justement capter les données, enfin leurrer votre carte sans-contact, donc là on est dans un monde très physique. En ce qui concerne
les achats,
deux choses dans ce que dit Robert. Alors effectivement, s'il a la possibilité de ne pas, en tout cas matériellement, par rapport au temps passé, effectivement, après la latitude qu'il va avoir, c'est jusqu'à quand, effectivement, les administrations proposeront. Alors, Mounir Majoubi, le secrétaire d'État en charge notamment du numérique, a dit que voilà, il y allait y avoir cet accompagnement des personnes qui n'étaient pas numérisées. La question, effectivement, va se poser de la durée de cette offre alternative.
C'est fini, en fait. Honnêtement, c'est fini.
Ça semble en tout cas très enclenché. C'est plus un accompagnement des dernières personnes qui, par méconnaissance ou par faute de moyens, que le signal d'un retour en arrière, c'est évident. Par contre, ce que je retiens de ce que dit Robert, c'est quand même de dire que le consommateur a le choix. C'est-à-dire que si, à un moment, vous estimez que les pratiques de telle ou telle entreprise, dans ses services, dans le jeu qui vous est proposé entre l'information qu'elle prend de vous et le service qu'elle vous rend, vous estimez que cet équilibre est disproportionné, vous avez le choix de voter avec vos doigts et de déserter. Gardons à l'esprit qu'il existe des plateformes qui ont été très connues à une époque. Je pense à MySpace. Quand vous étiez un musicien il y a quelques années, il fallait avoir un compte MySpace. MySpace est aujourd'hui moribond. Il y avait un site, notamment pour trouver de l'emploi, qui s'appelait Second Life. À un moment, les utilisateurs ont dit « ça ne vaut pas la peine, je n'en ai pas pour mon argent, en quelque sorte, je le délaisse ». Un moyen, si effectivement les utilisateurs peuvent à un moment, on a parlé de Google, Facebook, il y a eu un petit moment phénomène alors qu'on a appelé aux États-Unis Delete Facebook et
c'était après le scandale Analytica notamment.
Exactement, je vais effacer mon compte Facebook. Alors Robert, quand vous dites que vous avez un peu de navigation, si vous ouvrez votre compte Facebook et que vous continuez à naviguer, en fait, vous transférez l'intégralité de vos données à la maison Facebook, donc là vous êtes totalement exposé. Ce qui est certain en tout cas, c'est que ça vaut quand même le coup de raisonner, se dire, ce service, est-ce que quand il prend mes données, vous voyez par exemple sur votre téléphone portable, on vous dit j'ai accès à votre photo, j'ai accès à votre contact, est-ce que ça en vaut la peine ? Et de prendre le temps de faire ces réglages de manière à réduire son exposition et à la transmission de la bonne donnée, mais là on voit bien que c'est plus une exposition aux données et pas tellement au risque et aux pirates.
Allez, question rapide, réponse rapide. Sébastien Dupont, comment signaler un spam ou un début de piratage ? Est-ce qu'un spam est un début de piratage au fond ou pas ? Donc oui. Un spam, pour les gens qui nous écoutent et qui savent pas ce que c'est, ce sont des espèces de faux messages, en fait, qui désormais, d'ailleurs, sur certains comptes, c'est le cas de Gmail d'ailleurs, sont mis directement sur le côté. Voilà. Donc on ne les ouvre plus, on ne les regarde plus, donc on les laisse vivre sur notre boîte.
Et donc vous avez un site internet qui s'appelle Signal Spam, que vous pouvez transférer, vous faites juste le transfert, ce qui permet de documenter et donc de permettre aux opérateurs de les bloquer, puisque en fait vous signalez que ce message-là est malveillant, et donc on a une collectivisation. Et un deuxième site, cybermalveillance.gouv.fr, c'est un site, vous allez décrire le problème que vous avez suite à une attaque ou suite à un dysfonctionnement, ça va vous orienter vers un professionnel près de chez vous qui a signé une charte d'engagement vis-à-vis de l'État et qui donc va permettre à proximité, vous rentrez votre code postal pour éventuellement vous porter assistance.
Mais est-ce que c'est un début de piratage au fond, Sébastien Dupont?
Alors,
ou pas
le spam, ça peut être un phishing, un hameçonnage. Il y a deux spams. Le spam que vous recevez par SMS, celui-ci, il y a un truc qui est génial, Nicolas vient de le dire, sur Stop au Spam, c'est le 33-700. C'est-à-dire, vous transférez, vous faites un copier-coller du message qui vous est envoyé au 33-700. J'ai testé, c'est génial, c'est très rapide. 33-700 pour les spams. Pour le spam et peut être du phishing. Le phishing, c'est un hameçonnage. C'est quoi? C'est qu'on vous fait croire, on se fait passer pour quelqu'un d'autre avec des logos, etc. de votre banque. Et on va vous inciter à cliquer sur un lien, c'est le cas le plus classique, pour vous amener vers un autre serveur, un autre site. Vous croyez être sur votre site bancaire, vous êtes chez le pirate et il y a une copie du site. Et il fait ça pour vous récupérer vos mots de passe. Donc ça, c'est vraiment le risque numéro un. Robert évoquait tout à l'heure ce choix de déserter parce qu'il évoque des risques avec ses cartes bleues, ses moyens de paiement. Ça, c'est le risque numéro un sur lequel il faut être vigilant aujourd'hui. Rassurons tout le monde, aujourd'hui, les banques remboursent lorsque vous faites avoir, sauf s'il était évident que c'était un site pirate et que dans le mail, il y avait des fautes d'orthographe.
En tout cas, vous avez été négligente. C'est-à-dire qu'en tout cas, on n'est plus dans un remboursement automatique. Il y a une jurisprudence française qui est de dire si vous avez été manifestement négligent, la banque ne vous remboursera pas.
Julien Baldacchino.
En revanche, le simple fait de recevoir un spam dans sa boîte mail ne veut pas dire que la boîte a été piratée. Voilà, ça veut dire que quelqu'un de malveillant a votre adresse mail et vous l'a envoyé dans des dizaines de milliers d'adresses, mais ça ne veut pas dire que...
Et ne répondez pas si on vous dit est-ce que vous voulez arrêter de recevoir ce message. Ouais. Surtout ne répondez pas, puisque le fait que vous cliquiez montre que votre compte, votre adresse est active et qu'il y a bien quelqu'un au bout. Et au contraire, là, vous venez de changer de catégorie dans la catégorie des adresses à valeur ajoutée, puisqu'il y a bien un humain au bout. Et donc, il faut jeter ce mail, mais ne pas répondre à un spam.
Mais si on les efface pas tout de suite, c'est pas grave. Si on les laisse dormir dans la boîte, c'est pas grave.
On parlait de l'environnement tout à l'heure. Plus vous pouvez jeter vos messages, plus moins vous aurez une dépense énergétique pour la mise à jour de votre messagerie. Donc, n'hésitez pas à vider les corbeilles, vider les brouillons que vous n'utilisez pas. Ça consomme de l'énergie que de les avoir ainsi dans vos messageries.
Deux questions qui se répondent, celle de Jean-Louis d'abord. Qui me garantit de la sécurité des infos que je transmets aux administrations, puisque la sécurité 100% n'existe pas? Ce qui rejoint plus ou moins ce que nous dit Bertrand, qui dit: travaillant dans un CHU en France, je note que l'application gérant le dossier patient informatisé et géré par Google Chrome ou par Internet Explorer, à quel point le secret médical est-il respecté? Bref, est-ce qu'on peut rentrer dans ces données-là? Est-ce que quand effectivement toutes les administrations désormais sont sous Internet, est-ce qu'il y a un risque pour que mes données finissent dans l'escarcelle d'un hacker?
Alors, techniquement, oui, ce sont les données à valeur ajoutée, l'identité, la finance.
Battez-vous, Sébastien Dupont.
Oui, bien sûr, ça a de la valeur, donc ça peut susciter l'intérêt, et donc c'est la responsabilité de l'administration que de les protéger.
Allez-y, Monsieur Dupont.
Après, il y a des outils qui sont mis en place, il y a beaucoup de professionnels dans l'administration qui font un travail incroyable. Voilà, donc il faut aussi faire confiance à un moment. Le risque zéro n'existe pas. Il faut imaginer que la fraude sur les paiements en ligne, c'est seulement de 1,6 sur 1000 transactions. Donc on voit que ça arrive quand même pas tous les jours.
Je suis chômeuse, je reçois de plus en plus de mails frauduleux, de propositions d'embauche. J'en ai parlé à mon conseiller Pôle emploi. Il m'a conseillé de supprimer mes coordonnées de mon espace personnel et de mes CV. Est-ce que c'est un bon conseil qui a été donné, Sébastien Dupont, ou pas? C'est compliqué de ne pas avoir ses coordonnées sur son CV quand on est demandeur d'emploi, j'imagine.
C'est vrai que non, mais par contre, vous pouvez être elliptique, c'est-à-dire de ne pas mettre et votre adresse, et votre numéro de téléphone, et votre date de naissance sur des CV. Là, on parle de CV qui sont accessibles sur des sites en libre accès. C'est-à-dire quelqu'un qui a tous ces éléments qui composent votre identité pourrait soit l'usurper, soit vous adresser un message qui a la saveur de la réalité, de la vérité, et donc pourrait vous induire en erreur. Donc, mettre une adresse mail qui ne servira qu'à cela et que vous pourrez, le jour où heureusement vous aurez retrouvé un emploi, emploi supprimé, mais faire en sorte de ne pas confier tout votre état civil en libre accès, surtout avec votre photo.
Sébastien Dupont ?
Surtout les papiers d'identité. C'est qu'on a pris ces habitudes de transférer nos copies de cartes d'identité
par Internet.
Et puis
de les scanner, par exemple.
Et donc, des fois, on est un peu obligé. Donc là, quelque chose de très pratique qui est recommandé, c'est que vous barrez au feutre votre pièce d'identité. Si vous êtes vraiment obligé, il faut éviter à tout prix de transmettre ces papiers d'identité sur Internet.
Ah bon ? Mais attendez, mais il y a plein de sites qui nous le demandent.
Alors, quand c'est des sites sécurisés en HTTPS, avec le petit cadenas en bas, il n'y a pas de souci. Et de temps en temps, vous devez transmettre ça à des employeurs qui ne sont pas forcément sur un site en HTTPS. Donc, il faut à tout prix éviter. Et quand vous n'avez pas le choix, que c'est un employeur qui vous le demande, ce que la pratique que font certains, c'est de barrer et de marquer que ça a été envoyé à telle date, à telle personne, pour tel usage.
D'accord, mais en même temps, moi, si je suis l'employeur et que je reçois ça, en gros, ce que je me dis, c'est qui est cette personne qui a pas confiance en fait en moi. Je trouve ça intéressant ce que vous nous dites, parce que est-ce que ça veut dire que les documents que je scanne, y compris ceux que j'envoie à des administrations, quand j'envoie mon bulletin de salaire, par exemple, parce qu'on me l'a demandé ici et là et que donc je l'ai scanné.
En fait, c'est un clone que vous avez fait. C'est un vrai clone puisque vous l'avez fait sur un scan moderne qui est donc quelque chose d'assez haute définition. Vous avez créé vraiment en couleur parce que l'image, la captation de l'image sera faite en couleur. Vous avez fait un clone, donc effectivement. C'est comme si vous aviez transféré l'original. Donc effectivement, ça vaut le coup de le marquer de manière à ce que, et d'ailleurs éventuellement faire un scan en noir et blanc, de manière à ce qu'il soit d'une qualité dégradée, lisible évidemment, mais dégradée pour ne pas constituer une copie exacte du document original.
Jeanne et Thomas, elle nous demande si les antivirus ne sont pas des nids à virus.
Non, il faut avoir confiance, parce qu'au bout d'un moment, on doute de tout et oui, on ne fait plus rien. Le logiciel de sécurité, moi j'aime bien l'appeler comme ça, celui qu'on appelait avant l'antivirus parce qu'il fait plein d'autres trucs, il faut l'avoir. Ça c'est chez nous, s'il y a vraiment une chose numéro un à avoir, enfin parmi les trois choses à avoir, c'est vraiment ce logiciel de sécurité.
Et même sur un Mac donc, puisqu'on disait
bien
tout
sûr,
à l'heure que
bien sûr, bien
les...
Sûr.
Parce que moi j'ai pas d'antivirus sur mon Mac, évidemment, est-ce que je peux rentrer chez moi d'urgence ?
Alors, dans le livre, justement, j'essaye d'avoir des positions un peu plus fines avec des prises de risque. C'est-à-dire qu'il y a évidemment des environnements qui sont un peu plus sûrs que d'autres. Et on peut de temps en temps faire des prises de risque assumées.
Bonsoir Vincent.
Oui, bonsoir.
Vous êtes dans l'environnement, Vincent, allez-y.
Excusez-moi. Déjà, merci à France Inter pour la qualité de toutes ces émissions. Et un petit clin d'œil au vieillissant Daniel Morin que j'affectionne particulièrement. Voilà. Après moi, c'était pour dénoncer deux escroqueries de base sur Internet auxquelles j'ai été confronté sans tomber dedans. C'est sur les sites de rencontres, vous avez souvent des femmes, des mannequins, des photos de mannequins qui, en fait, c'est fictif. Derrière, c'est des Africains, sans stigmatiser, qui après vont chercher ou à récupérer des données, carte d'identité.
Mais pas que ça, il y a qui vous demandent de l'argent aussi,
voilà,
etc.
Ou de l'argent, ça. Et dernièrement, là, sur Facebook, mais c'est pas la première fois aussi que j'y suis confronté, j'ai reçu une page où quelqu'un qui propose sur le terrain des rachats de crédit à des taux très très intéressants, machin. Et quand je suis allé rechercher moi sur Google derrière, parce que par curiosité, quoi, et c'est là que j'ai vu que c'était une escroquerie, et pas plus tard qu'hier, Facebook a retiré le profil de la personne. Voilà. Et après, j'avais une troisième éventuellement question à vos invités. C'était par rapport au scandale Huawei, je sais plus comment on prononce, savoir quelle était la dangerosité éventuellement de ces appareils-là, vu que j'en possède.
C'est marrant d'ailleurs, parce que Jean-Yves Le Drian a fait une déclaration sur Huawei cet après-midi et va notamment rencontrer ses homologues chinois, si je ne m'abuse, si c'est pas aujourd'hui, c'est demain ou dans les jours qui viennent. D'abord là-dessus, qu'est-ce qu'on peut dire pour notre auditeur, hein, le fameux scandale Huawei?
Alors, en fait, c'est pas ça. C'est que c'est la question. En fait, lorsqu'on a parlé pour l'instant de lutte contre la criminalité, c'est ce qu'on a évoqué jusqu'à présent. La question qu'on va avoir en cybersécurité, c'est contre qui je me protège. Pour l'instant, un certain nombre de pays ont mis en cause le constructeur. Alors à chaque fois, ça s'est fait de manière assez incantatoire pour l'instant. C'est-à-dire que il y a un débat qui confronte et la géopolitique et les intérêts économiques, qui est la mise en cause de la confiance dans un équipementier télécom qui est un leader mondial. Simplement, c'est vrai que les éléments n'ont pas forcément été documentés. Le problème, c'est que pour l'instant, c'est un affrontement qui est avant tout géopolitique, alors qu'il ne concerne pas les particuliers, parce que ça se joue pas là-dessus pour l'instant, c'est plutôt les intérêts stratégiques, la confidentialité d'informations critiques. Ce qui est certain, c'est que là, il y a un y a un vrai affrontement et on voit bien que le terrain numérique est un terrain de la géopolitique à n'en pas douter. Par contre, vous évoquiez les escroqueries. Oui, bien sûr, c'est normal. Enfin, c'est normal. C'est prévisible qu'il y ait des escroqueries dès lors que les escrocs vont là où il y a du monde. Mmh. Et donc, Facebook est une communauté où il y a du monde. Surtout que les gens sont dans un sentiment de confiance.
Il faut apprendre à le sentir venir, en fait. Voilà. Et on commence à apprendre à le sentir venir.
Mais c'est sûr que de mettre de très jolies femmes, des hommes très séduisants ou éventuellement
des
toits attractifs.
Voilà. C'est pas pour nous.
Ne renoncez pas au principe de réalité, au principe de lucidité.
Voilà, je citais la dépêche tout à l'heure, je vais vous la donner. Le gouvernement français est conscient des risques liés à WeWay et prendra des dispositions nécessaires quand il le faudra. Et c'est Jean-Yves Le Drian qui le dit. Voilà, puisque notre auditeur posait la question, on en profite, Julien.
Sur Facebook, la règle, quasiment la règle d'or, c'est de ne pas accepter quelqu'un qu'on ne connaît pas, puisque c'est un réseau social entre amis. Donc, on veut vraiment être sûr de tout protéger.
En fait, ça veut dire que, en gros, les pirates ont dévoyé Facebook, parce que l'histoire au départ, c'était d'accepter des gens qu'on ne connaissait pas, Julien. Et puis désormais.
Oui, mais faut quand même faire cette transposition avec le monde réel. C'est-à-dire de la même manière que prenez, au moment des fêtes, vous êtes peut-être allé sur un site gratuit de petites annonces qui permettent d'offrir des cartes de vœux gratuites en ligne. Vous avez téléchargé une carte de vœux gratuite. Ensuite, vous l'avez endossée puisque vous avez mis votre mail en tant qu'émetteur et vous avez mis le mail d'un ami, d'une connaissance comme destinataire. Simplement, vous n'avez absolument aucune idée de la composante du programme qui est dans cette carte de vœux gratuite. La question, c'est est-ce que vous auriez accepté de quelqu'un dans la rue avec un petit étal qui vous aurait dit « Oh, formidable, j'offre des cartes de vœux !» Non, vous vous seriez dit « C'est une secte, c'est une escroquerie, je ne veux pas !» et vous auriez passé votre chemin. Il n'y a pas de raison de ne pas avoir dans le monde numérique les mêmes réflexes, j'allais dire, de conservation et de scepticisme qu'on aurait dans le monde réel.
Et surtout, sur les sites de rencontres comme sur Facebook, il faut absolument se méfier de quiconque vous propose de faire quelque chose hors de la plateforme. À partir du moment où on propose d'aller sur WhatsApp, sur Skype, sur une autre plateforme que celle où la discussion a lieu, on peut se méfier, voilà.
C'est très important ce qui vient d'être dit. Moi, je suis très attristé parce que j'ai pu voir sur les sites de rencontres. J'ai fait une expérimentation dans l'écriture de ce livre et ce que j'ai découvert est vraiment dramatique. Et je pense, j'appelle à la responsabilité.
Parce que ça, c'est presque de l'abus de faiblesse aussi par ailleurs, hein, pour certains.
C'est de l'abus de faiblesse. Il y a des jeunes gens qui se font attraper. On appelle cette arnaque l'arnaque à l'effeuillage. Et vraiment, et puis il y a eu des problèmes, c'est-à-dire que quand on vous fait passer en boucle sur votre téléphone votre vidéo où vous êtes défeuillé et on vous demande une rançon, il y a des enfants qui paniquent. Ouais. Il faut en parler aux enfants. Et ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on sort de l'outil pour aller dans un autre outil, il faut vraiment se méfier.
Quand j'utilise des mots de passe, je ne les tape pas, je fais au bout du compte un copier-coller. Est-ce que c'est mieux, moins bien, pareil en termes de sécurité? Ou c'est pas grave?
Non, alors la seule chose, en fait, la vraie faiblesse, c'est pas tellement celle-là, parce que ça suppose que vous faites un copier-coller, que vous l'ayez quand même copié dans la mémoire de l'ordinateur. C'est-à-dire que vous savez que quand vous faites des copier-coller, vous ne pouvez conserver que le précédent copié. Par contre, ce qui est plus problématique, c'est votre navigateur va vous proposer d'enregistrer vos mots de passe. Vous savez, pour vous éviter justement d'avoir à les recomposer. Là, il faut déconseiller cette pratique qui est pourtant bien confortable. Pourquoi? Parce que c'est comme si vous laissiez, là encore sur la serrure, des clés en permanence. Vous ne le feriez pas dans la vraie vie. Il faut donc ne pas utiliser la fonction d'enregistrer automatiquement les mots de passe, les identifiants et les recomposer à chaque fois.
Donc il faut les noter quelque part.
Parce que en tout cas les retenir, parce que vous voyez bien que c'est un peu
faussé. Parce que moi j'ai un petit carnet avec tous les mots de passe, donc je vous dis pas, si on me pique le carnet.
Vous voyez bien le paradoxe, dès lors que ce fameux code secret il est enregistré quelque part et que vous n'avez plus à le composer, vous voyez bien que c'est une défaillance supplémentaire.
Patrice nous dit ceci: j'ai un virus qui me dit d'appeler un numéro de toute urgence dès que j'allume mon ordinateur, je ne sais pas comment m'en débarrasser.
Alors pour le faire nettoyer, le plus simple, si vous n'avez pas une connaissance ou un professionnel à proximité, vous allez sur cybermalveillance.gouv.fr qui est donc un site créé par un groupe d'intérêt public géré par l'État qui va vous mettre votre adresse, vous allez décrire ce qui vous arrive, mettre votre code postal, ça va vous indiquer une liste de professionnels qui ont été référencés sur cette plateforme gouvernementale et il y aura une manipulation, vraisemblablement un nettoyage, un reformatage de votre disque dur, enfin en fonction, et ça pourrait être fait par ce professionnel à proximité de chez vous.
Et alors, puisqu'il nous reste très peu de temps, Sébastien Dupont. Beaucoup de gens nous le demandent. J'aimerais que vous nous redonniez d'abord l'astuce pour les spams. C'est quoi déjà?
Alors, sur Stop au spam, c'est 33700.
33700, donc c'est un SMS, c'est ça?
C'est un SMS.
C'est un SMS 33700.
SMS à 33700.
Et I have been pound.
I have been pound.
qui sert à désormais.
Qui sert, une fois que vous mettez non pas votre mot de passe, mais vous mettez votre adresse email et vous donne l'information est-ce
c'est
que
ça,
votre
pour savoir
compte
si votre mot de
a
passe...
déjà été piraté et si vous devez changer votre mot de passe.
Alors I have been pound, on essaiera de mettre ça sur le site du téléphone sonne. Enfin, on trouvera un moyen de vous le donner. Tiens, j'ai un mot de la fin pour vous. Voici cet auditeur qui est parfait et qui nous dit que le mot de passe idéal ce serait France Inter et ma radio préférée. Je suis assez d'accord, mais pour que ce soit vraiment totalement sécure, il faudra faire France Inter et ma radio préférée. Sproumpf, @1912. Allez, merci.
Conserver cette information pour soi parce que le code secret doit rester secret.
Voilà, merci beaucoup. Allez, portez-vous bien.